Cham sur RFI et ce soir à la fête de l'UMA, midi 10, à Paris, dans un instant sur RFI, 8 milliards de voisins.
Midi 10 sur la Clé des Ondes, vous écoutez le plat de résistance et comme chaque vendredi dans ce plat de résistance, on rediffuse des passages de l'émission Achaïra. Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires qui a lieu sur notre antenne tous les premiers lundis du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez bien sûr en intégralité en podcast sur notre site laclédesondes.fr. Voilà, tout de suite, Achaïra, la rediff.
Voilà, bien, pour commencer, nous voulions rendre hommage à notre camarade Claire Ozias que nous avons chroniqué ici dans cette émission. Ce mardi 6 août 2024, nous apprenions la mort de Claire Ozias. Le cancer ne lui a laissé aucune chance. Nous avions invité Claire Ozias sur Bordeaux le vendredi 5 octobre 2018 à l'Athénée Libertaire pour une rencontre autour de son livre « Trimard, Pègles et Mauvais Garçons » de mai 68, paru aux ateliers de création libertaire ACL. C'est sans doute une partie de son histoire, de sa jeunesse lyonnaise. Elle a participé en 1968, au mouvement du 22 mars Lyon. Claire Ozias a fait un travail important sur les Roms avec son ouvrage sur leur génocide, Samouda Ripen, et un travail sur les femmes Roms. Quelques ouvrages, Les Tziganes, Le destin sauvage des Roms de l'Est, Les funambules de l'histoire, Les Tziganes, entre préhistoire et modernité. Éditrice, elle a publié le travail de Lou Marin sur Camus et les libertaires. En 2006, dans la collection L'anarchisme en personne, ACL a publié en 2006 un long et très personnel entretien avec Mimmo Pucchiarelli qui nous avait remué, Claire l'enragée. C'est ce livre qu'ACL a souhaité partager et que ses éditions ont mis en libre téléchargement pour connaître un peu mieux qui était cette personne si particulière et attachante. En attendant la sortie fin septembre d'un livre qu'ACL était en train de publier avec elle, vous pourriez retrouver sur notre site le lien vers cet ouvrage. Pour lire d'autres titres aussi publiés chez ACL, nous vous donnons le contact. On lira aussi Claire Ozias ou l'anarchie vagabonde de Freddy Gomez sur le site d'un contre-temps, où il conclut « Oui, Claire l'enragée, la rebelle, la fragile était une femme libre, sa vie l'a prouvé, elle me manquera. » Nous rajoutons « Elle nous manquera. » Mais tout de suite, la chronique d'André, la chronique de la désobéissance.
Chronique de la désobéissance.
L'oiseau rouge. Ce seraient les éléments du début d'une première autobiographie d'une femme autochtone d'Amérique du Nord. Zitkala Shah, née en 1876, décédée en 1938, est née dans une réserve Dakota au bord du Missouri. Il faut dire que vivait là un peuple vaincu militairement qui entamait une période d'assimilation, peuple qui survivait de cueillettes de baies, de plantes et de racines, mais aussi de rations et d'annuités octroyées par le gouvernement fédéral. On est loin des tribus des collines de la Zomia qui pratiquaient la fuite vers des zones de refuge. Petite enfance. Matin, midi et soir, la même de Zitkala Shah faisait le chemin de son wigwam usé jusqu'à la rivière boueuse pour l'usage de la journée. L'enfant interrompait alors ses jeux pour courir aux côtés de cette femme que sa fille trouvait toujours triste, car chargée des deuils encore récents des membres de sa famille massacrés par les Blancs. « Ma mère ne prie plus, disait-elle. Le grand esprit se fiche de savoir si nous sommes vivantes ou mortes. Ne lui demandons pas le bien ou la justice. Ainsi, nous ne serons pas déçus. » En dépit des circonstances, Zitkala Shah se décrit comme heureuse et un peu sauvage dans sa famille élargie. Habillée d'une ample tunique en peau de daim, nous dit-elle, des mocassins souples à ses pieds légers, elle jouait à courir après l'ombre dans les collines. Elle apprenait les travaux de perles et d'épines de porc-épic. Elle écoutait le soir autour du feu les histoires d'Ictomie, un esprit farceur de la mythologie de son peuple. Si sa mère lui avait enseigné sa propre dignité, c'est en même temps que le profond respect de la liberté des autres. Éducation scolaire. La situation changea du tout au tout avec l'arrivée de missionnaires qui recrutaient des élèves. Dès les années 1870, l'éducation devient un des piliers de la politique d'incorporation et de soumission des peuples mis en déroute par les États-Unis. Les parents qui rechignaient se voyaient privés d'aide. Cependant, à 8 ans, Zid Kalasha convainc sa mère réticente de la laisser partir étudier. « Les visages pâles nous ont volé nos terres, » dit-elle. « Ils ont envers nous une dette immense qu'ils commencent à rembourser tardivement en offrant à nos enfants une éducation. » Elle fera alors la dure expérience de la discipline sévère des éducateurs quakers. Se lever ou s'asseoir au commandement. De n'avoir pas le droit de jouer dans la neige. Il était presque impossible, nous dit-elle, d'échapper à la routine d'acier qui s'enclenchait une fois que la machine à civiliser nous avait appelés. On la fera sauter en l'air comme un jouet, on lui coupera les cheveux, dans son peuple les cheveux courts étaient réservés au deuil, on changera ses souples mocassins contre des chaussures rigides, on lui donnera un autre nom, Gertrude Simone Bonin. On lui montrera dans un livre le portrait du diable qui punit les petites filles désobéissantes, image qui lui donnera des cauchemars. Au réveil, pour se venger, elle grattera la page jusqu'à la mettre en lambeaux. Oui, Zid Kalasha se rebelle. L'endurance merveilleuse que j'avais reçue en héritage, nous dit-elle, me permettait de plier sans rompre. Et elle poursuit. Pour les écritures des Blancs, j'avais abjuré la foi en le grand esprit. Pour elle encore, j'avais oublié la guérison puisée dans les arbres et les ruisseaux. Comme un arbre gracile, on m'avait déraciné de ma mère, de la nature et de Dieu, on avait coupé mes branches, agité le mouvement d'amour et d'amitié envers ma famille et les miens. On m'avait écorcé jusqu'au cœur, me dépouillant de mon enveloppe organique, protection de ma nature trop sensible. Sa soif d'apprendre, cependant, lui fait continuer ses études d'institut en université. Puis, elle se lancera dans l'écriture et le militantisme avec la Société des Indiens d'Amérique. Avec le temps, elle fera partie de cette élite autochtone, qualifiée maintenant d'amérindienne, qui luttera d'une part pour l'égalité des droits dans l'intégration, d'autre part pour les droits collectifs des tribus. Il serait intéressant d'avoir un panorama des différentes tribus indiennes qui ont conjugué toute la foi une certaine intégration tout en conservant leur caractère de peuple premier. Paganisme. Il nous paraît que toute sa révolte est bien dite et résumée dans les dernières lignes de ce court ouvrage. Nous citons « Moi, toute petite enfant, faisais mes premiers pas dans un monde merveilleux. Je préfère à leur dogme mes excursions dans les jardins de la nature où la voix du grand esprit se fait entendre dans le pépiment d'oiseaux, le clapotis des eaux puissantes et l'air vibrant exhalé par les fleurs. Si c'est là le paganisme, alors, en cet instant, du moins, je suis païenne. » C'était la chronique d'André qui nous parlait de l'ouvrage Zid Kalasha, l'oiseau rouge, mémoire d'une femme Dakota, paru aux éditions Les Prouesses en 2024, 128 pages.
Voilà, et bien tout de suite, en direct cette fois-ci au téléphone, Esmeralda, vous allez nous donner le rebond sur la chronique de cette mémoire d'une femme Dakota.
Oui, parce qu'il faut quand même expliquer qu'ils sont par téléphone, oui. Souffrant, ils sont restés sur Pessac. Vous êtes là, on vous entend bien
Oui, 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 nous sommes là, nous sommes là, voilà, je suis la voix. la voix qui subsiste.
D'accord, très bien.
Oui.
Eh bien, c'est parti pour ce rebond. À toi, oui. Esmeralda.
D'accord, entendu. Eh bien, donc, ce recueil, L'oiseau rouge, mémoire d'une femme Dakota, est paru aux éditions Les Prouesses. C'est une maison d'édition qui publie des œuvres littéraires qui font résonner les voix féminines venues du monde entier, nous disent-elles, pour agrandir l'imaginaire et ouvrir à d'autres sensibilités. Voilà donc ces éditrices qui soulignent le fait que le livre rassemble 4 récits qui ont été publiés dans la revue Atlantic Monthly en 1902, donc il y a déjà maintenant quelques temps. Et ces articles qui firent grande sensation, parce qu'ils contrastaient bien sûr avec la propagande coloniale de l'époque, où il s'agissait de tuer l'Indien et sauver l'homme, c'est une formule sur laquelle nous reviendrons. Donc Zigtalasha faisait partie d'un groupe et elle est née au sein de la réserve Sioux de Yankton. Elle se définissait elle-même comme indienne. Alors donc Sioux et indienne, ce sont des termes placés entre guillemets mais qu'elle se donne elle-même, terme fruit de la colonisation, aujourd'hui réfuté par les populations autochtones. Et bien sûr, l'édition a pour titre L'Oiseau Rouge, car il s'agit de son nom de plume, un nom Lakota, tout proche de la langue Dakota. Le livre est préfacé par Céline Planchou, qui est maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à l'Université de Paris-Sorbonne, et qui nous éclaire sur tout le contexte historique. Elle nous explique qu'en fait, lorsqu'elle est née, Zigtalasha, elle est née dans une période charnière de l'histoire amérindienne aux États-Unis, une période où les individus sont assignés à résidence dans des réserves qui subissent de plein fouet les politiques fédérales assimilationnistes qui visent bien sûr à désintégrer les institutions, les cultures, les langues autochtones et à transformer les personnes en de futurs citoyens américains bien propres et bien blancs, le plus blanc possible. Donc ces écrits constituent un témoignage essentiel parce qu'ils donnent à ressentir en fait une sorte de tourment, de dilemme intérieur de toute une génération qui doit tant bien que mal s'adapter, apprendre à naviguer entre deux mondes et accepter d'exister dans une sorte de compromis permanent. Lors de la naissance de Zigtala, les Lakota sont encore un peuple proche des Dakota, eux sont encore aux prises avec l'armée américaine dans la région des collines noires. Mais plus à l'est, chez les Dakota, la résistance armée n'est plus du tout d'actualité. La période de transition est déjà bien entamée dans différentes réserves Dakota. Les systèmes économiques et politiques traditionnels sont totalement mis à mal et la survie en fait est organisée par les colons, par les blancs, et elle repose en grande partie sur des rations et des annuités du gouvernement fédéral. Heureusement, subsistent quelques traditions qui permettent, grâce à la cueillette de racines de plantes et un peu de chasse, de subsister, d'améliorer l'ordinaire. C'est une politique coloniale qui est extrêmement violente, qui est dénoncée par Zigtalasha, un colonialisme de peuplement, puisqu'il est bien dit, nous étions rabattus, dit la mère, c'est la mère de Zigtalasha qui dit, nous étions rabattus, mon enfant, rabattus comme un troupeau de bisons. Et cette politique coloniale qui se poursuit par, bien sûr, une sorte de stabilité dans les réserves, mais réserves qui sont elles-mêmes grignotées. Alors, ça n'est pas sans rappeler une actualité extrêmement pénible du côté de la Palestine, puisque déjà à l'époque, il y avait ce grignotage des terres par des colons, par des colons blancs, pauvres, qui tentaient de s'établir et toujours avec des intentions pas très favorables aux tribus autochtones qui étaient en place. Enfin, une enfance finalement assez heureuse de cet enfant jusqu'au jour où les missionnaires arrivent Alors c'est un moment charnière extrêmement important. Ils arrivent dans la réserve pour recruter des élèves pour ce qu'on appelait les White Institute, des différents pensionnats, toute une chaîne de pensionnats qui était installée dans les États-Unis. Et donc ces missionnaires qui faisaient miroiter aux enfants un avenir radieux, un monde où des vergers couvraient des zones absolument merveilleuses, un pays des merveilles d'ailleurs, elle nous dit, pays des pommiers rouges extraordinaires, et puis un voyage dans le cheval de fer, bon, le chemin de fer, mais qu'elle appelle cheval de fer, vers ces terres, ces sortes de terres promises, mais où ils vont subir une éducation de fer dont ils vont être extrêmement malheureux. Alors, ces pensionnats, citons la phrase, tuer l'Indien et sauver l'homme, cette formule, elle est, souvenons-nous de son nom, de Henri Pratt, qui était directeur d'un établissement, d'un pensionnat indien à Carlisle, en Pennsylvanie. Donc, à travers ces récits de Zitala Shah, ces premiers récits parus en 1900 et jusqu'en 1902 par fragments, c'est la première fois que les violences assimilationnistes subies par les enfants sont abordées et dénoncées. Avec des termes très forts, puisqu'elle dit que l'école les transforme en momies prêtes à l'inhumation. Mais bon, il y a toujours cette grande force, cette force de résilience puisée dans l'enfance à travers les collines qui va la pousser en avant et même va la pousser à continuer des études en institut, puis à l'université, et elle va devenir elle-même enseignante pour les Indiens. C'est le titre de l'un de des parties de ce recueil, qui s'intitule Une Indienne qui enseigne aux Indiens. Donc elle poursuit ses études, elle va également être une très brillante utilisatrice de la langue anglaise, puisqu'elle participe à des joutes oratoires, également une très fine musicienne, puisqu'elle va contribuer à un opéra qui sera joué, mais bien sûr sans que son nom soit jamais mentionné. Il ne faut pas exagérer quand même. Et donc, elle va ensuite se tourner vers le militantisme et elle va rejoindre la Société des Indiens d'Amérique, qui est la première organisation nationale pan-indienne. Elle a été créée en 1911 et elle va jouer un rôle important dans l'adoption de différentes lois, dont la loi fédérale de 1924 sur l'octroi de la citoyenneté américaine à l'ensemble des Amérindiens, ce qui bien sûr n'était pas encore à l'ordre du jour. Donc c'est un parcours qui s'inscrit tout à fait dans une sorte de essor d'une élite intertribale, mais c'est un parcours tout en subtilité, sans qu'elle soit jamais totalement englobée, dominée par la culture environnante. Et en fait, tous ses écrits sont une sorte, on peut les lire comme des actes politiques. Elle n'a jamais été dupe de l'ambivalence des politiques assimilationnistes, en fait. Et puis elle en dit même que, et nous l'avons dit dans la chronique d'André, c'était parfois on pouvait le voir comme une mort programmée qui se cachait derrière une sorte de mascarade de civilisation. Donc cette écriture de Zitala Shah, qui est une voix féminine autochtone, qui témoigne à la fois de l'adaptation à des nouvelles formes de résistance, et aussi qui va nous donner à voir des continuités culturelles, malgré les efforts assimilationnistes américains. Voilà, donc il reste des traces et des attaches très tenaces au sol et aux valeurs autochtones. Et puis, même si dans l'immédiat, il n'y a pas un grand écho au niveau, on pourrait dire, oui, de révolte indienne, dès les années 70, il va y avoir une sorte d'ouverture de voie du militantisme et une sorte de résurgence des luttes autochtones contemporaines. Voilà ce que l'on peut dire de Zitala Shah, tout en soulignant que le livre comporte une très belle photographie d'elle par Gertrude Casbeer, qui est une photographe portraitiste américaine, qui était née en 1852, et qui est célèbre par ses puissants portraits des natifs, dont elle épouse la cause d'ailleurs. Et cette photographe a promu justement la photographie comme carrière pour les femmes. C'était elle a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes photographes. En conclusion, c'est vrai que lorsqu'on lit Zitala Shah, on ne peut que penser à un autre livre canadien, celui-là, un livre intitulé « Jeux blancs » de Richard Wagamese, qui retrace le parcours d'un garçon, oui, c'est un garçon, à travers les montagnes du Canada, et puis également la manière dont il est totalement l'objet d'une brutalité
envers les enfants, oui.
Absolument, brutalité dans les... Oui,
c'est un livre extraordinaire. Hein.
Ah oui, très beau. Et il essaie de tirer son épingle du jeu par le biais par le biais du hockey sur glace, parce qu'il est extrêmement... C'est un joueur surdoué. Mais enfin, il tire son épingle du jeu momentanément, parce que effectivement il est rattrapé par la méchanceté des hommes blancs. Alors, ce sont des parcours un peu similaires, et à l'inverse, on pense aussi, et André a cité le travail de James C. Scott, et en particulier celui de Zomia. Zomia, donc livre qui s'intitule Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, une histoire anarchiste des hautes terres d'Asie du Sud-Est. Et donc c'est un ouvrage qui sera abordé, nous le savons, lors d'une prochaine chronique d'André. Donc voilà, on ne va pas en dire plus, mais voilà, c'est une belle introduction à Zomia que ce texte de Zitala Shah dont nous avons parlé aujourd'hui. Voilà.
Merci Esmeralda, à très bientôt. Et oui. Puis nous allons continuer en
bien
écoutant
sûr.
De la musique. C'est parti.
Voilà, oui, et on vous écoute aussi. Au revoir.
Trop nombreux sont ceux qui ont oublié le passé. L'histoire de l'homme, une honte, faut-il te le ressasser? Le monde, une spirale où les mêmes erreurs sont retracées. À force de côtoyer l'horreur, nos cœurs sont devenus glacés. Nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasée. Les peuples unitéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissance ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré cracher, créer un entrave à la leur. À l'heure où les dictatures sont cachées, à cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats aurait dû la planète à un grand marché. La loi des plus riches et beaucoup crèvent avant d'être âgés. Protestation dite criminelle si tu les as outragés. Ils mentent lorsqu'ils disent que le mal-être n'est que passager. Puis s'étonnent quand la nature se rebelle comme un peuple enragé. Disent être transparents alors que de sang leurs mains sont tachées. Déconseillent fortement d'avoir des idées trop engagées. Accélération de leurs plans depuis que des avions se sont crashés. Toi, dis-moi dans quel sens au système es-tu attaché. Ils prêchent le blasphème et la vraie lumière se fait lyncher. Tenez la corde au cou dans certains pays, elle a lâché. Parle de justice alors qu'à la racine ils l'ont arraché. Les plus gros engrais sur la tête de ceux qui n'ont rien à mâcher. Voilà le monde d'aujourd'hui, paraît que leur plan a marché. Nous vantent un progrès technique qui dans le fond a tout saccagé. Parle d'évolution quand notre humanité s'est fait hacher. Notre cœur ne bat plus vraiment et notre inconscient est fâché. Stress, angoisse, cancer, dépression, notre compte s'est chargé. Mais on ne cherche pas la cause, c'est les effets qu'on aimerait chasser. Philosophie fast-food pour que nos consciences soient terrassées. Au nom de la dignité humaine, nous avons on dit assez. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Désobéissance.
est une résistance contre un système qui crée le terreau favorable à la haine de l'autre, au racisme et au mépris.
Le refus de coopérer, de collaborer avec l'autorité.
Même si on marche séparément, on doit frapper ensemble.
Il y a quelque chose, une injustice quelque part, on descend tous. Il y a un problème quelque part, on descend tous.
Là, c'est de la désobéissance civile, c'est pas de la violence.
Il y a une place énorme, une responsabilité énorme dans ce qui s'est joué et ce qui se joue et ce qui va se jouer dans l'avenir.
Et oui, voilà, désobéissance civile, c'était Kenny Arcana. Kenny Arcana, c'est une rappeuse engagée, altermondialiste. Dans son album Désobéissance civile, paru en 2008, elle dénonce la mondialisation, la concurrence qui s'impose au détriment des droits des peuples. Elle fait partie du collectif La Rage du Peuple, créé en 2004 dans le quartier de Noailles à Marseille. Et donc, vous écoutez à Chaïra l'émission de pollinisation libertaire sur La Clé des Ondes, 90.1 MHz.
Le débat d'actualité.
Voilà, eh bien Rémi, tu n'es pas resté inactif cet été, tu es parti dans le Poitou voir Stop Méga Massine. Que nous auras-tu ramené de cette semaine-là?
Mais je t'avoue que j'ai vraiment passé un très très bon été à pédaler tout au long, puisque en tout cas les auditoristes de La Clé des Ondes sont au courant, puisqu'on a lancé des reportages, au moins 4 reportages sur le convoi de l'eau qui est parti de Bordeaux à Mel entre le 13 et le 16 juillet dernier. Mmh. Voilà, avec une agression par un commando plutôt proche de la coordination rurale. Et d'ailleurs, je suis en train de travailler à faire un cinquième reportage justement sur cette question d'agression. Ouais. Mais on a quand même vécu quelque chose d'extraordinaire. C'était vraiment fabuleux. On a fait tout un tas d'actions et on a participé au nom de La Clé des Ondes à Radio Méga Radio. C'était une expérience collaborative vraiment géniale. Et on aurait pu faire une émission entière avec tout ce que j'ai ramené. Mais non, je vous ramène deux petites perles comme ça que j'ai pris sur la manifaction en vélo. Voilà, je suis parti en vélo ça commence comme ça.
5, c'était qu'un morceau en fait. Maintenant on est 550. C'est absolument magnifique. Les paroles de Castor, pour ceux qui étaient sur le convoi de l'eau, paroles de Castor, c'est un truc de malade ce matin. C'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, en l'espace de même pas 20 minutes, on était organisé comme il nous avait fallu 3 jours pour le faire l'année dernière. Donc c'est un truc de dingue. Je pense que c'est ça, apprendre à lutter ensemble, c'est ça, se donner les moyens de lutter pour aller chercher des victoires. Et c'est ce qu'on va venir chercher ici. Et c'est grâce à nous, grâce à ce qu'on est en train de faire. Donc vraiment bravo, c'est vraiment super, je suis hyper ému. Donc du coup, ce matin, on est parti vers 8h30, on a quand même eu de la chance. On a réussi à passer, parce qu'en vélo, on n'est pas des cibles habituelles. On a réussi à trouver l'eau, on a trouvé nos routes, on a eu une petite frayeur en arrivant devant des camions de CRS. On a réussi à tourner à gauche, on s'est retrouvé, on a même eu des camarades en voiture qui se sont retrouvés bloqués à l'entrée du petit chemin quand on est rentré, parce qu'on est quand même rentré, c'est ça qui est extraordinaire. On est rentré en zone de manifestation interdite. Parce que pour nous, la manifestation, c'est notre moyen d'expression. Bravo, bravo à nous. On est passé par différents endroits. Je sais pas si on a toutes et tous eu le temps de regarder un peu à gauche, à droite. On a des endroits comme ici qui sont magnifiques. J'ai vu des demoiselles, les mêmes qui sont dans le ruisseau de chez moi. On a vu des endroits superbes avec des petites valles, des talus, des arbres. On a aussi vu des grandes plaines avec des cultures de maïs, des cultures de blé. On voit bien que tout ça, c'est en tension, et que ces demoiselles qui sont à côté, il va falloir qu'on en prenne soin, parce que les grandes cultures qui sont autour, c'est pas ça qui permettront de leur maintenir un milieu correct pour continuer à vivre. Et on en a tous et toutes besoin. Du coup, voilà un peu le paysage. On est dans une zone... On est dans une zone... J'ai la fatigue. On est dans une zone, là, ici. On arrive, en tout cas, on aurait voulu aller à Saint-Sauvent. Dans une zone où on est sur la ligne de partage des eaux. On l'a entendu là avec le témoignage de on va dire, la mairie. On est sur une ligne de partage des eaux entre le Clain d'un côté et la Sèvre Niortaise de l'autre. Ça veut dire qu'une ligne de partage des eaux, c'est les, c'est, on va dire, les éléments en altitude. Et du coup, à ce titre-là, c'est un milieu qui est particulièrement fragile au prélèvement, enfin, en tout cas, sensible au prélèvement. Et c'est ça qu'on est un peu en train de traverser. Donc, c'est important d'arpenter le territoire. C'est aussi une manière de pouvoir rentrer en lutte, se fatiguer ensemble. On a travaillé ça sur le village à différents endroits. C'est une manière de faire collectif et de pouvoir réussir à lutter ensemble. Donc, ouvrons les yeux encore sur la suite. Donc, je pense qu'on va avoir encore des paysages assez intéressantes de ce point de vue-là. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma camarade qui va vous donner quelques éléments par rapport à ce pourquoi on est ici. Et merci de votre confiance.
Donc voilà, les connectifs Bassine, non merci. On se retrouve aujourd'hui et nos objectifs ne changent pas. On est tous ensemble et on se rassemble pour essayer de faire face à ces méga bassines. Et donc, tu nous parlais des paysages tout à l'heure, mais on voit aussi les paysages que génère l'agro-industrie. Et donc, ce week-end, les actions qui ont été portées par les collectifs, elles ont le but de visibiliser l'impact des filières agro-industrielles sur les paysages et sur nos systèmes de production alimentaire. Donc là, depuis ce matin, on parcourt ces paysages et on continue de faire pression. On est plus de 550 dans ce convoi vélo. On est sur les territoires, on les habite, on les occupe, on montre notre opposition ferme à ces projets de méga bassines en espérant que voilà, la pression qu'on occupe sur ces territoires, elle permette de reporter les travaux et d'imposer, d'imposer un moratoire pour permettre l'arrêt des travaux et de permettre un dialogue pour le partage de l'eau. Autre chose, là, le convoi vélo, c'est qu'une infime partie, enfin c'est une petite partie des convois, de la manifestation du jour, donc un petit point météo des autres convois. Ce matin, il y avait plus de 600 personnes à partir du village de l'eau en voiture. Ces personnes ont été gazées, énormément gazées, mais ont quand même réussi à prendre la route jusqu'au point de rendez-vous. Le point de Poitiers, il y a eu énormément de monde. Les gens sont extrêmement solidaires. Il y a des bouchons de plus de 3 km là-bas. Ils ont réussi à passer malgré les contrôles. Ils sont toujours en route vers le point final de rendez-vous, mais ça se passe plutôt bien. Et les deux autres points, à Saint-Maxent et Saint-Vivonne, eux, se passent encore mieux et donc convergent vers Poitiers. Donc on leur souhaite plein de courage, du courage à nous et Nova Saran.
Voilà, donc en fait, c'était le 19 juillet dernier. Je faisais partie de cette magnifique expérience qui était l'action de Bassine Non Merci à 550 à vélo, comme ils l'ont raconté, avec des gens vraiment extraordinaires. Et ça met la pêche, ça donne envie. Et d'ailleurs, le prochain grand rassemblement, ça sera chez nous. Ça sera autour du 12-13 octobre. C'est dans le sud Gironde contre la LGV. On continue ce petit moment, puisque là, on était vers midi. On était en train de se poser dans un village qui nous avait accueillis. C'était vraiment chouette et sympa. Et on a fait du vélo et on a fait pas mal d'actions. Et donc, après toutes ces actions, il faisait très chaud. On s'est arrêté. On a refait un bilan. On écoute.
Voilà, alors petite météo des autres convois. Effectivement, on a eu peu de communication et peu de retours, donc on a hâte de revenir au camp pour en savoir plus. Mais ce qui est sûr, c'est que petit à petit, au fur et à mesure de l'après-midi, le nombre de manifestants qui ont réussi à arriver au point de rendez-vous de pique-nique a augmenté, est passé de 1000, 6000 jusqu'à 10 000 manifestants manifestantes qui ont réussi, malgré les contrôles de police, à atteindre le site. Sur place, en revanche, les forces de police ont été nombreuses et malgré la sécheresse qu'on a connue, nous, dans le champ de maïs, n'ont pas hésité à tirer ce qui a mis le feu dans le champ. Et donc, suite à ça, le convoi a décidé de ne pas prendre le risque de traverser les flammes, parce que le champ était vraiment en feu, et a donc, après avoir marché un certain temps, a décidé de revenir au village de l'eau pour se retrouver ce soir, se reposer et mieux repartir demain. Voilà, donc encore une fois, on voit l'irresponsabilité des forces de l'ordre. On est triste que ça se passe comme ça. La bassine, donc, qui était l'objectif, ils n'ont préféré ne pas s'y rendre par mesure de sécurité. Et on est content qu'aucun de nos camarades n'ait eu à franchir le feu. Voilà pour les infos qu'on a. On en saura plus ce soir.
Et maintenant, de notre côté, de bonnes nouvelles, puisqu'on va revenir sur les actions que nous avons faites pendant le convoi à vélo. Et je passe la parole. Merci.
Alors, tu passes la parole aux naturalistes des terres. Un big up pour les naturalistes des terres!
Merci, merci. Alors, ce qui s'est passé cet après-midi, comme vous avez pu le voir, c'est que un magnifique cuivré des marais, un cerf-volant cuivré des marais, s'est envolé avec à son bord un petit panier en osier tressé contenant des lentilles d'eau. Alors, pourquoi ce geste? Pourquoi cette action? L'idée, c'est que en fait, le cuivré des marais, c'est un papillon qui est très en danger sur le territoire. Et l'idée de ce geste, c'était d'apporter des lentilles d'eau dans la bassine afin, très concrètement, de boucher, de les laisser se proliférer dans la bassine et ensuite d'aller boucher potentiellement les canalisations. Donc...
Des lentilles.
Ce qui est assez, ce qu'on trouve assez chouette, c'est d'avoir pu justement dépasser les deux espaces qu'on a l'habitude normalement de fréquenter, en s'envolant dans les airs en fait et en contournant les frontières que la police a pu mettre entre nous et la bassine, ouais. Et de pouvoir larguer, grâce aux atouts que peuvent avoir ces animaux absolument merveilleux, une petite balle qui va contenir ces lentilles là, ces toutes premières germes qui vont pouvoir à terme réussir à complètement boucher cette bassine. En tout cas, on l'espère, on croise les doigts, on se permet un petit peu de rêver là-dessus, ça qui est assez incroyable. Et l'un des autres messages qu'on peut tirer de ça, c'est que ces lentilles d'eau, elles vont finalement retrouver l'eau qui a été prise du marais. Il faut savoir que l'eau des mégabassines, c'est forcément de l'eau qui vient d'ailleurs, et c'est de l'eau qui ne va pas aller dans un marais, qui ne va pas aller dans un endroit où le cuivré des marais va pouvoir se développer, etc. Et donc, en déposant de nouveau ces lentilles d'eau dans la bassine, on permet à ces lentilles de retrouver l'espace qui a été volé au marais, et de cette manière-là, pouvoir contrer ces projets-là contre lesquels, je pense, on est tous opposés.
Alors pour compléter ce truc-là, c'est vrai que vous avez peut-être vu, enfin moi en tout cas c'est ce que j'ai remarqué, je pense que ça mérite d'être exposé. Quand nous avons ensemble réussi à faire décoller ce magnifique cerf-volant, on a vu qu'il y a eu quand même un effet assez incroyable chez les forces de l'ordre. L'hélicoptère a pris de l'altitude en prenant peur sur qu'est-ce qui est dans cet espace qui est réservé à l'armée, qui est réservé à la gendarmerie. On a vu aussi quand le cerf-volant est passé par-dessus la ligne de police, la ligne de gendarmes, on les a vus en panique avec cette espèce de truc là, ils pensaient peut-être que c'était une bombe. Et du coup ils savaient plus quoi faire, ils ne regardaient plus, ils étaient en train de faire demi-tour. Ça a été, enfin pour moi c'est. Ça a été inscrit dans les annales des luttes. Enfin je veux dire, c'est un truc qui est. Wow. Entre le récit que ça donne et l'effet que ça. Enfin je veux dire, l'innovation que ça produit, c'est quelque chose. Wow. Bravo les naturalistes. Bravo.
C'était un passage de l'émission Achaïra, émission de pollinisation des idées libertaires, diffusée en direct sur notre antenne le premier lundi du mois de 20h à 22h et que vous retrouvez en intégralité sur notre site laclédesondes.fr.
La Clé des Ondes, 90.10, laclédesondes.fr.